Avant de commencer le message, je vais faire juste une petite correction par rapport à ce que j'ai dit au message passé. J'ai été encouragé par mon frère Jean à rappeler que la technologie, surtout ceux qui travaillent dans ce domaine-là, vous ne travaillez pas pour le diable, et puis il m'a donné une très bonne illustration par rapport à la science, la technologie et tous les moyens qu'on a aujourd'hui. C'est comme un micro. Hein? C'est comme un micro. Ça va simplement amplifier ce qui est déjà là. Donc, la technologie va, pour ceux qui font le bien, avoir plus de moyens pour mieux faire le bien, plus de bien, plus loin. Et ceux qui sont méchants, ben, ils vont juste aussi, comme un micro, amplifier leur méchanceté. C'est correct? Non, mais c'est vrai, parce que je ne veux pas avoir de l'air quelqu'un qui est contre la technologie. Au contraire, je suis très content. Surtout, tu sais, quand il y a une tempête comme hier, hein, ou avant-hier, c'est-à-dire, puis tu sais, tu es dans ta maison, c'est pas trippant, ça? Non, c'est vrai, tu sais, le chauffage se fait tout seul. Tu veux te couler un café, pèse sur le piton, bing, tu regardes la tempête dehors, trop beau. Donc, dans le livre des... que Paul, ou la lettre que, finalement qu'il va envoyer aux Colossiens, ce que je nous proposerais ce matin, c'est d'abord d'essayer de sortir les grandes idées du livre. Puis après ça, je pourrais me perdre dans toutes sortes de sujets. Fait que je vais vous donner au moins les grandes structures du livre, OK? Donc, les Colossiens reçoivent une lettre de l'apôtre Paul qui n'est pas nécessairement le fondateur de cette Église. Epaphras semble être celui qui est sous l'enseignement de l'apôtre Paul qu'il donnait à Éphèse, parce que Paul avait fait un collège biblique à Éphèse. Il a passé quelques années là pour enseigner presque à tous les jours. Et il nous est dit, résultat de ce collège biblique où Paul enseignait, ceux qui venaient finalement recevoir son instruction, eh bien, retournaient dans leur village et ils annonçaient finalement l'Évangile et fortifiaient l'Église dans toute l'Asie mineure. En d'autres mots, la Turquie d'aujourd'hui. Et puis, le but d'un collège biblique, puis c'est pour ça qu'on va leur commencer le nôtre bientôt, avec la faculté qui est à un niveau supérieur, c'est de donner finalement l'instruction qui vient de la parole de Dieu. Parce qu'il y a, comme on disait, c'est mercredi qu'on disait ça, il y a deux niveaux finalement à la connaissance. Ce n'est pas un contre l'autre, c'est un et l'autre. Il y a la connaissance au fond que Dieu nous demande de posséder, qui est la connaissance naturelle. C'est si on reçoit un mandat de prendre soin d'une création, il faut la comprendre, la création. Si on doit cultiver, il faut comprendre finalement les lois et les principes de la nature. Donc, l'étude des sciences naturelles chez les croyants devrait être extrêmement valorisée. Je le dis parce qu'à certaines époques, quelquefois, on dirait que l'Église voit l'instruction scientifique, ainsi de suite, comme un danger pour elle. Au contraire. On étudie la création de notre Père, de notre Dieu. Donc, si tu ne sais pas comment ça marche, tu ne peux pas vraiment faire ton premier mandat qui est de prendre soin de la création. Mais l'espérance dans laquelle on vit aujourd'hui ne peut pas venir de ce type de connaissance. Parce que Paul va nous montrer finalement qu'en dehors de l'Évangile, tout ce qu'on peut apprendre naturellement fait juste nous rappeler qu'on est destiné à un juste jugement. Parce que dans la création, si vous brisez une loi, il y a des conséquences. Comme Paul l'a dit aussi à d'autres personnes, aux Galates entre autres, ce qu'un homme sème, il va le récolter. Donc, on va essayer de comprendre maintenant que si ce type de connaissance me donne une connaissance essentielle et nécessaire pour identifier et bien comprendre nos problèmes, maintenant, comment Dieu nous propose une solution au problème qui va nous donner de l'espoir. Et ça, c'est seulement par la parole de Dieu ici. Donc, c'est une révélation spécifique à un besoin qui s'adresse aux pécheurs. Si on n'avait pas péché, eh bien, devinez quoi, on n'aurait pas eu besoin de Bible. C'est pour ça que quand on va être dans sa présence, bien, on n'aurait plus besoin de la promesse. On va être dedans, on va le voir, ça va être une réalité finale. Donc, Paul maintenant va enseigner les Colossiens pour les mettre en garde parce qu'il voyait finalement qu'à chaque époque, dans chaque lieu, il y a des courants qui sont présents Par exemple, nous, on en a dans notre propre culture. Donc, qui risque de les égarer. Et puis, en regardant bien comme il faut les lettres de l'apôtre Paul, si en Adam, si on est ici aujourd'hui, c'est que d'abord, on est né de la chair. Si vous n'êtes pas né de la chair, bien, vous n'êtes pas là, fait que ce n'est pas un problème. Donc, on est tous nés d'Adam. Okay? On est tous nés, la chair engendre la chair. Ça marche? Tout ce qui est engendré en Adam, Paul le rappelle aux Corinthiens, est destiné à la mort. C'est final. Et quand le Seigneur est venu s'incarner dans la chair, il a fait des guérisons, il a même fait encore une fois des résurrections, mais pour démontrer qu'il était la solution à la nouvelle création, et non pas qu'il était, au fond, le réparateur de la première création. Il ne répare pas la première création, il nous invite à une nouvelle création. Et il prend la même expression que si on est né de la chair, eh bien, on a les conséquences, les avantages et les désavantages d'une naissance. Si on est tous mortels, séparés de Dieu par naissance selon la chair, ça ne dépend pas de nous. Et ça, c'est vraiment important qu'on le comprenne. Vous allez voir, c'est un puissant encouragement. Je suis mortel, j'ai une nature déchue, et puis finalement, mon espérance n'est pas en moi, parce qu'en moi, plus le danger, plus on se regarde, là, bien, plus on a trouvé une source, des fois, de un petit peu de découragement. Et surtout en vieillissant. Pas vrai? Les jeunes, ils ne croient pas encore, au contraire, ils ont hâte d'être vieux, puis ils s'arrangent en vieux. Mais quand tu commences à être vieux, tu t'arranges en jeune. Vous avez remarqué, quand les jeunes disent, « Hey, t'as l'air plus vieux que ton âge, wow! » Nous autres, qu'est-ce qu'on disait? « Hey, tu fais vraiment pas ton âge, t'as l'air plus jeune que ton âge. » Donc, chacun s'est mentri, OK? Bon. Donc, tout ça pour nous dire que tout ce que j'ai en Adam, je peux plus ou moins bien le gérer. Il y aura des conséquences. Si vous venez une bonne vie, il y a des avantages en passant. On ne peut pas vivre n'importe comment et s'attendre à ce que ça va être agréable, dans le sens qu'on est responsable d'une sorte de vie. Mais je ne peux pas me sortir de cette première naissance d'Adam par moi-même. Je vais en mourir. En d'autres mots, de ses conséquences à celui d'où on vient tous, Adam. Ça a l'air déprimant, ça, mais au contraire, c'est une très bonne nouvelle quand on entend l'Évangile. Parce que si on est de nouveau, j'ai encore une fois les conséquences du nouvel homme. Si je vais subir, si mon corps ici qui est généré en Adam doit mourir, mais j'ai une bonne promesse de la part de Dieu, on va le voir un peu plus tard, la résurrection. Et donc, finalement, la mort pour nous, comme Paul le dit, c'est quelque chose qu'on peut juste croire parce que Dieu nous le dit, parce que pour l'homme naturel sans espoir, la mort, c'est vraiment le saut final de l'absurdité d'une vie qui ne fait aucun sens. T'sais? Puis il n'y a pas d'ange pour mourir. Il n'y a personne qui peut dire, non, moi j'ai le droit de vivre jusqu'à 70, 80, c'est marqué dans la Bible, 90. Non, je suis désolé, tu ne peux pas réclamer le produit, la garantie. Il n'y a pas d'ange pour mourir. Par contre, ce qui est vraiment trippant, par exemple, ça, Paul va essayer de vraiment insister là-dessus dans son livre pour les Colossiens, on a tout pleinement en Christ. Il est pleinement suffisant maintenant pour nous donner part, d'abord, la nouvelle naissance, et étant né de nouveau, d'un homme nouveau, on peut explorer et développer une nouvelle sorte de vie. Comme en Adam. Si on se donne des moyens, on peut se développer une plus ou moins bonne vie en Adam. Pas vrai? Donner de l'éducation à quelqu'un, donner des moyens, aider la personne, et normalement, on favorise la croissance puis le développement d'une vie. Priver des gens d'instruction ou de toutes sortes de choses, bien, vous les privez de pouvoir atteindre un certain potentiel. C'est la même chose par la nouvelle naissance. Parce que des fois, il y a une idée un petit peu trop, Tu sais, les communistes avaient une idée que tout le monde était égal. Hein? On est tous égaux hein, chez les communistes. Mais quand vous regardez comment ils l'appliquaient, il y avait des gens peut-être plus égaux que d'autres hein, dans le système. Et puis, ils devaient répartir la richesse dans tout le peuple. Mais c'est drôle, on dirait qu'elle n'était jamais à certaines places. Mais le danger que cette philosophie du communisme a produit, c'est que l'État s'occupe de nous, tu n'as plus besoin de t'occuper de toi, et tu es payé, que tu travailles bien ou que tu travailles mal, tu auras la même paye. Et ça a démotivé énormément les gens de s'investir, parce que finalement, il n'y avait plus de raison personnelle. Savez-vous quoi? Quelquefois, je ne suis pas sûr, mais quelquefois, j'ai l'impression qu'on a amené cette philosophie-là dans la vie chrétienne. Parce que les gens disent « Non, moi, je suis sauvé de toute façon. C'est tout réglé. Moi, je m'en vais au ciel. C'est le paradis. » C'est vrai. Mais est-ce que vous remarquez qu'il y a des vies de croyants bien plus tripantes que d'autres? Est-ce que vous voulez avoir une vie chrétienne tripante? Bien, écoute, ça veut dire qu'on peut la développer, on peut l'explorer, cette vie-là. Donc, autant en Adam, c'est une sorte de vie que tu peux plus ou moins développer avec des conséquences finales qui est on retourne à la terre, mais en Jésus-Christ, Paul va rappeler aux Colossiens, rappelez-vous, maintenant, Dieu vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage. Puis on va essayer de comprendre ce que ça veut dire d'avoir part à l'héritage. Donc, avant de lire la lettre, on va faire la division. On va essayer de prendre les grandes idées, d'accord? Au chapitre 1, Paul va commencer, tu veux-tu nous projeter ça sur le mur? Paul va commencer d'abord en nous rappelant la toute suffisance de Christ en tant que sauveur, qui va devenir donc l'objet de la foi des Colossiens. L'objet de notre foi détermine ce qu'on va vivre. Okay? Donc, de trouver et de toujours réaliser qu'il va avoir tout en Christ, mais on va faire attention de ne pas tomber dans des stéréotypes d'hyper-spiritualisation, le tout en Christ, vous allez voir. Après ça, donc, pour commencer cette-là, il va faire ses fameuses salutations, comme il fait toujours. Action de grâce de Paul, sa prière après ça pour les Colossiens, qu'on va pouvoir voir ensemble aussi. Qu'est-ce qu'on devrait prier souvent, demander? On va regarder. Après avoir fait ses propres actions de grâce et prié pour eux, il les enseigne à être des gens qui cultivent la reconnaissance. L'action de grâce, versets 12 à 14. Pour après ça, du verset 15 à 20, il va nous parler, il va nous développer le thème, la prééminence du Fils de Dieu. Comme Adam détermine le sort de toute l'humanité dans la chair, Christ va déterminer tout le sort de la nouvelle humanité sur la nouvelle terre de nouveaux cieux. Et ce n'est pas simplement spirituel, parce qu'il va nous montrer finalement que Jésus-Christ est présentement, ce que Matthieu a rappelé quand il finit son évangile, Jésus-Christ a présentement reçu de la part du Père tout l'héritage. Tout l'univers. Quand vous pensez que, je ne sais pas moi, certaines, selon les astronomes de la connaissance d'aujourd'hui, nous disent qu'il y aurait peut-être des univers à des 14 milliards d'années-lumière, c'est un bout, là, ça, quand tu pars le matin, il faut que tu sois sûr que tu as le temps d'arriver. Eh bien, finalement, est-ce que vous réalisez que tout appartient à Jésus-Christ? Tout. Il n'y a pas un atome dans tout l'univers créé, que Jésus ne dit pas « c'est à moi ». Tout est à lui. Du plus gigantesque, non mesurable, à ce qu'il y a de plus petit, même la petite vedette présente en ce moment, le coronavirus, eh bien, ça appartient au Seigneur Jésus. Ça, j'ai hâte d'arriver devant le Seigneur pour lui demander qu'il m'explique c'est quoi un virus, parce que c'est tellement bizarre ces affaires-là, hein? Seulement, c'est-tu vivant? C'est pas vivant. C'est quoi, c'est un virus? T'sais? Mais pour l'instant, je ne suis pas intéressé de le rencontrer, mais le Seigneur, oui, mais pas le virus. Donc, il va passer du temps pour leur montrer qu'il est sur toute la création. Et regardez ce que ça veut dire. Non seulement par l'œuvre de la croix, il a vaincu toute domination, mais il est le Seigneur sur toute dénomination. Domination et dénomination aussi, mais domination. Il règne sur toute chose. En d'autres mots, il enlève aux Corinthiens, c'est-à-dire aux Colossiens, l'idée que le diable est en train de lutter contre Dieu. Tu sais, ils sont en train de jouer au poker, puis à savoir, ils se partagent les âmes. Pas du tout. Donc, il va leur expliquer clairement, et il va leur montrer le danger de ne pas le croire, c'est de tomber dans une forme de vie chrétienne, de mysticisme étrange qui va aller combattre le diable, plutôt que de le résister sur la victoire de Christ, qui est vraiment différente. Et sur l'œuvre de la rédemption, on a tout pleinement en lui. Et ça aussi, il va montrer après ça les pièges dans lesquels on peut tomber si on ne comprend pas clairement qu'il est souverain sur toute la création et il est prééminent sur tout ce qu'il nous faut pour notre rédemption. Donc, l'amour de Dieu qui les a réconciliés et leur responsabilité demeure fondée dans la foi. Donc, c'est sur la parole de Dieu qu'on le croit. Après ça, Paul se réjouit malgré les souffrances que lui cause d'être ministre de l'Évangile par la proclamation du mystère parmi les païens, savoir Christ, il dit, en vous, l'espérance de la gloire. Imaginez que l'apôtre Paul se réjouit d'ajouter ce qui manque à l'œuvre de Christ. Là, ça fait comme une contradiction, dire, y es-tu souverain? Il va nous rappeler finalement pourquoi il se réjouit d'ajouter ses souffrances aux souffrances de Christ. Et qui va être une exhortation pour nous aussi. On l'a chanté tout à l'heure, on est amené à l'abattoir, comme il était lu. Tu sais, Jonathan nous a lu finalement dans Romains 8. Mais même là, on peut se réjouir. Donc le but du livre, là, c'est qu'on sorte, après ce livre, si on l'a bien compris, que peu importe ce qui va arriver, on peut être dans la joie du Seigneur qui est vraiment notre force. Ça ne sera pas circonstanciel. Ce n'est pas les circonstances. Des fois, on a des bonnes circonstances où c'est facile d'être heureux puis joyeux, c'est vrai. Mais il y a d'autres fois dans notre vie que c'est plus dur. Mais dans les moments durs, c'est là qu'on s'accroche à ce qui est au-delà de ce que je vis présentement et qui me redonne une joie que l'épreuve essaie de me voler. Parce qu'il y a un danger de tomber dans le désespoir. Le désespoir, c'est une forme soit d'ignorance, ou d'incrédulité, si on est au courant, de l'espérance qui nous anime. Est-ce que Abraham, juste pour un exemple bien vite, est-ce que d'après vous, Abraham aurait eu des raisons d'être dans le désespoir? Quand il rentrait chez eux, dans sa tente, puis il regardait sa femme, il y avait deux manières de la voir. « T'as gâché mon appel. T'es pas capable d'avoir des enfants. Dieu me donne une mission d'avoir un fils. » Il aurait pu vraiment se frustrer contre la madame, pas vrai? En disant, écoute, puis la pauvre madame a dit, écoute, ben moi, si j'ai pas d'œufs, qu'est-ce que je te dise? Tiens, je voudrais bien en avoir, moi, des œufs, mais n'ai plus. N'ai pas. N'ai pas eu quand j'étais jeune, puis là, je suis vieille en plus. Fait qu'Abraham, quand le Seigneur repense et lui redit, parce qu'Abraham, il a voulu régler le problème à Dieu. Et ce que Paul va essayer de montrer aux Colossiens, essayez pas de régler le problème pour Dieu de ses promesses qu'il fait. Ce que Dieu promet, il l'accomplit. Mais on a une mauvaise manie des fois de dire, ouais, Dieu a promis, mais il avait oublié là, qu'on n'est plus dans son temps, là, t'sais, puis il faut qu'on l'aide un peu, tu sais. Eh bien, Abraham et Sarah ont essayé d'aider Dieu et ils ont décidé d'avoir un enfant par une mère porteuse, Agar. Et c'est là que se sont agarés. Donc, il est content, il a son fils Ishmaël. Bon, ça y est, on peut commencer le ministère. Et puis, puis Dieu dit rien en plus. C'est ça qui est intéressant avec Dieu. Il est vraiment comique des fois. Hein? Il nous laisse faire des niaiseries puis il dit rien. Puis autres, on est sûr qu'on l'a aidé en disant, bon, j'espère qu'il doit être content, là, tu sais. Et le Seigneur, un jour, visite Abraham. Ta femme va avoir un fils. Écoute, c'est réglé. Il dit, non, non. La tienne. C'est réglé, on a un. Il y a déjà 11-12 ans. Il dit, on va le bénir, mais c'est pas lui. C'est pas lui. Et Abraham revient chez eux, puis il faut qu'il annonce ça à son épouse. Il me semble qu'après un bout de temps, quand tu racontes la même histoire à ta femme pendant quasiment 25 ans, tiens, tu lui as fait quitter sa demeure dans un pays bien organisé, tiens, où est-ce qu'elle avait une vie, et puis là, viens chérie, Dieu m'appelle à l'étranger pour faire de nous une grande nation, tiens, puis arrête pas de l'écœurer avec ça, et puis ils s'en vont, puis là, ça fait 25 ans qu'elle fait du camping, la madame. Et c'est toujours une question de, tu sais, c'est-tu un truc pour vouloir coucher avec moi tous les soirs, ça, cette affaire-là? Ça fait que, me semble que Mme Sarah, elle devait commencer à être usée un peu du fameux appel de son mari, pas vrai? C'est encourageant pour nous autres, les gars, ça, d'info, non, ces histoires-là? Quand ta femme te regarde en disant, oui, c'est ça, ben oui. Et puis finalement, quand le Seigneur il a dit, non, non, l'année prochaine, plus il est là, il craque. Il est couché, il est prosterné, il est très respectueux, il est couché à terre. Mais il rit en voulant dire, ben oui, c'est ça. Puis Dieu dit, tu ris? Jamais de la vie. Bon, il a trouvé son nom. C'est comique. On s'amuse. On s'amuse, on va l'appeler de même. Oui, Isaac. Ça veut dire on s'amuse. Vous regardez dans l'hébreu. Un jour, justement, Isaac, il était chez, comment il s'appelle ce roi-là déjà? Abimélech. Ouais. Hein? Et puis, qu'est-ce qu'il faisait? Avec sa sœur, il jouait, mais il jouait un peu trop. Et puis Abimélech, quand il voyait ça de son balcon, parce qu'il s'est fait raconter le même, tu sais, on se passait les mêmes messages à l'époque, hein, les mêmes menteries. Puis il dit, hey, hey! Fait qu'il dit, là, ils sont appelés dans, tu sais, vers le roi. Je t'ai vu, Isaac, avec ta sœur. On n'Isaac pas de même avec nos sœurs. En d'autres mots, tu sais, il jouait, tu sais, parce que la sexualité, au fond, c'est le jeu des adultes. Hein? Vous ne jouez pas bien, bien, je pense. Ça fait que, imaginez finalement, il reçoit le nom parce qu'il est rendu à un point qui n'arrive plus. Parce que regardez, il y a une différence entre croire le Seigneur et de se faire accroire qu'on le croit. Et la plupart des chrétiens oublient qu'après une certaine phase de se faire accroire qu'on croit, on ne croira plus. Et donc là, on peut commencer à croire. De la même manière que quand un couple arrive en disant, puis l'autre va dire, non, regarde, j'aime plus ma femme, j'aime plus mon mari. Bon, bien, vous allez commencer à apprendre à vous aimer. Ben non, je viens de te dire, j'ai plus d'amour. Non, tu n'as plus de désir. C'est pas pareil. Là, tu vas apprendre à aimer. C'est la même chose avec la foi. Au début, on se raconte des histoires. Et on veut y croire parce que, tu sais, on annonce une bonne nouvelle, puis on veut y croire. Le Seigneur veut produire une vraie foi volontaire de cœur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va permettre à ce que l'épuisement de se faire accroire à un moment donné disparaisse pour commencer à dire, là, je m'attache à ta fidélité, à ton caractère, que tu ne peux pas nous mentir. Donc, ta parole est un ancrage et non pas, j'arrive à me le faire accroire. Je suis obligé de m'attacher à ce qu'il dit, ce qui va être la source d'une nouvelle sorte d'espérance qui va dépasser ce que je vis à tous les jours. On est ancré dans un lieu sûr. Et donc, Abraham, de la même manière que presque tous les hommes de la Bible, ont toutes passé ces phases-là. Donc, c'est pour ça que le désespoir qui peut devenir à l'origine de nouvelles décisions d'incrédulité, Abraham a surmonté ça. Il n'a pas regardé que son corps était mort. Il avait tous les faits pour se décourager. Il avait tout ce qu'il fallait pour ne pas y croire. Mais il a décidé de mettre sa confiance, non pas dans ce qui est capable de se faire accroire, mais dans celui qui parle la promesse, celui qui est capable de faire l'impossible. Et n'oubliez pas, quand c'est impossible pour nous, on ne peut pas se le faire accroire. À un moment donné, tu as raison, dis, ce n'est pas possible. Mais Dieu fait des choses impossibles. Et comme de fait, un an plus tard, les deux ont l'enfant de la promesse, très différent de l'autre qu'ils ont fait, Ishmaël. Et savez-vous quoi? Paul nous rappelle que nous aussi, on est des enfants de la promesse. Et ça, c'est quelque chose d'absolument inouï à développer et à explorer. Donc ça, c'est ce qu'il va faire au premier chapitre pour leur rappeler finalement cette bonne nouvelle. Deuxième chapitre, il va traiter finalement des avertissements maintenant sur les fausses doctrines qui risquent d'égarer les Colossiens. En tant que leur ministre, il veut les affermir dans ce mystère où tous les trésors de la sagesse et de la science se trouvent en Christ. Il veut aussi les mettre en garde contre ce qui peut les égarer. Un, le danger des philosophies humaines s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Parce qu'oubliez pas les traditions des hommes et les rudiments du monde ou les éléments de base de la vie qui est à l'origine souvent des mouvements philosophiques ont des faits. Et beaucoup de chrétiens, avec le temps, et même des collèges bibliques, souvent, après avoir bien parti pour enseigner et mettre toute leur attention sur l'étude des Écritures, tranquillement, les gens vont commencer à dire « on veut quelque chose de plus pratique ». Et là, on va développer des collèges bibliques qui, tranquillement, vont commencer juste un petit peu à négliger l'étude de la parole de Dieu pour bien la comprendre, pour commencer à se faire des programmes plus pratiques. Ce n'est pas que c'est mal d'avoir des programmes pratiques, application de doctrine, théologie pratique, pas de problème, mais comme un effet secondaire de la sève. Mais c'est facile pour beaucoup de gens de dire « ah, c'est abstrait ça, la parole de Dieu, puis ça. Moi, j'aime des choses plus concrètes, des expériences plus concrètes, des œuvres plus concrètes, du leadership, du counseling, toutes des bonnes choses qui vont être le résultat de la sève. Mais le danger, des fois, c'est de sauter l'étape de la parole pour vouloir tout de suite rentrer dans les œuvres, parce qu'on a l'impression que c'est là que ça se passe. Et en passant, la raison pourquoi on est très motivé souvent aux œuvres, c'est qu'en réalité, on essaie de calmer en nous l'angoisse de ne pas être assez juste, de ne pas croire l'œuvre qui nous rend juste et se mettre à croire à nouveau dans ce qu'on fait. C'est drôle parce que je dînais avec le docteur Routier, qui est le doyen de l'Université Laval pour la théologie. Et puis lui, c'est un théologien catholique. Là. Fait qu'on mange ensemble, puis il dit « Écoute, Jeff, j'en ai une bonne à te raconter. » « Ah ouais? Oh, tu vas rire, tu vas voir, tu vas rire. » OK. Il dit « Sais-tu quoi? Dernièrement, je corrigeais le travail d'un étudiant évangélique. » « Oui, d'accord. » Et en corrigeant son travail, lui, il a fait ça sur la croissance de l'Église et la multiplication de l'Église. En corrigeant son travail, j'ai dit, « Sais-tu quoi? Je suis plus évangélique que toi. » Il dit, « C'est incroyable, le gars, il est fasciné puis il cherche toutes sortes de méthodes pour la croissance de l'Église comme si son salut en dépendait. » Et vous n'êtes pas supposé de croire que vous êtes parfaitement justifié sans les œuvres, vous autres? Fait que, « Jules est bonne. » C'est qui paye, c'est toi? OK. Ça fait que c'est facile de se raconter l'histoire qu'on croit à la justification par la foi seule. C'est facile de se raconter ça. Non, ça fait partie du credo, tu le dis. Mais comment tu mesures ta véritable foi de ton faire, ton, c'est pas une bonne expression, là, mais ton faisage à croire? On se comprend ça, le faisage à croire? Bien, ça va être quand je vais être provoqué et sur quelle base maintenant je m'attends que Dieu va me répondre. Sur la base que j'ai la justice nécessaire pour recevoir de Dieu la réponse à mes prières. Dans l'épreuve, est-ce que je peux m'attendre du secours du Seigneur ou je suis là à faire mon propre plaidoyer, en d'autres mots, est-ce que je suis prêt à m'attendre au Seigneur? Va répondre aux questions, mais est-ce que je suis prête à vraiment croire qu'il est totalement suffisant, non seulement pour ma justification, qui est un statut, mais en même temps les effets secondaires de pouvoir poursuivre dans l'espérance que sa justice est suffisante pour que toujours le croyant puisse se relever. Même si vous avez manqué votre coup, vous avez échoué, restez pas là, perdez pas du temps. Faites simplement, vous, Seigneur, tu as entièrement raison, j'ai échoué. Maintenant, je crois dans ta fidélité, tu as fait une alliance en Christ, que quiconque vient te confesser ses fautes, tu es juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. En d'autres mots, je ne laisserai pas mon passé me tourmenter et crier dans ma tête sans arrêt que je dois racheter. Au contraire, plutôt que de vouloir racheter pour sauver mon image de moi-même, le Seigneur va toujours nous guider en disant, non, voici sur quelle base tu dois continuer à agir. L'amour que j'ai eu pour toi, tu vas le donner à ton frère. Le pardon que j'ai pour toi, tu vas le donner à ton frère. Vous me suivez? Plutôt que d'essayer d'avoir une vie qui va compenser pour un passé. Vous ne pouvez pas compenser pour un passé. On peut le réparer par amour, c'est sûr. Et normalement, si vous aimez quelqu'un et vous avez fait une faute, l'amour va normalement vous stimuler à vouloir réparer la faute. Pas pour votre rédemption, mais par amour en sachant que vous avez fait une victime. Donc, toutes ces choses-là vont être le fruit si j'ose croire. Donc, le danger de la philosophie, c'est souvent toutes sortes de moyens de compenser toutes sortes de choses. Après ça, il dit l'autre piège qui nous attend, c'est toutes les ordonnances religieuses, dont le judaïsme. Que personne ne vous juge au sujet d'un manger, du boire, d'une fête, et d'un Shabbat, nouvelle lune. Ça a l'air peut-être vieux, ça, mais ça marche encore aujourd'hui. Il y a des gens que, je les aime beaucoup, ils sont très gentils, ça n'a rien à voir avec la gentillesse des gens. Okay? Quand quelqu'un est poigné dans une erreur, là, ça n'a rien à voir si la personne est gentille ou pas gentille. Il y a plein de gens gentils, c'est les Mormons. On avait rencontré, nous, en Israël, avec ma femme, hein? Et puis, ils étaient tellement sympathiques, ces gens-là, on a eu tellement un bon temps avec eux autres. Fait que ce n'est pas l'individu, mais ce qui l'empêche de rentrer pleinement dans ce que Dieu a pour lui, c'est de croire autre chose que l'œuvre de Christ. La même chose, finalement, avec, par exemple, des chrétiens sont en train de tomber dans un panneau énorme de vouloir tourner vers le judaïsme en pensant que si, par exemple, ils se réunissent le samedi, ça va être plus spirituel. Écoute, c'est gros comme une maison. Il dit que personne ne vous juge au sujet des Shabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Celui qui faisait l'ombre de tout ça, le Shabbat, la nourriture, tout ça, il est venu. Tout est accompli. Vous pouvez, si vous voulez, vous réunir le samedi. Ce n'est pas un péché. Mais ne pensez pas qu'en vous réunissant le samedi, les prières sont plus entendues parce que c'est le samedi. Ou ne pensez pas parce que vous ne mangez pas de porc, vos prières vont être mieux entendues. Vous me suivez? Mais c'est un piège que même des chrétiens qui ont commencé bien dans l'œuvre accomplie par Christ sont en train de vouloir ajouter à leur vie chrétienne des moyens pour amplifier leur vie, pour que ça soit encore plus intense. On va voir la différence entre bien discipliner sa vie pour ne pas perdre la grâce de Dieu versus de tomber dans une forme de discipline pour mériter plus de grâce de Dieu. Il y a un piège là-dedans. Et le troisième, ben, c'est le culte des anges. Voyons donc, c'est quoi, c'est le culte des anges? Il y a des gens qui tombent dans le mysticisme et qui, là, cherchent des expériences pour avoir comme un genre de nouvelle sorte de connaissance. Il y a des gens qui, je ne sais pas, vont vouloir parler à leurs anges. D'abord, parlez-leur pas, ils ne vous écoutent pas. Ça marche? Ils ont un ministère et leur face est tournée vers le Seigneur et c'est lui qui donne des ordres. Ce n'est pas nous autres. Je ne vois pas Daniel prier Gabriel pour dire « Écoute, peux-tu revenir la semaine prochaine parce qu'il y a des mots? » Non, non. Il prie Dieu. Et Dieu, finalement, va faire ce qu'il veut. Le monde angélique est au service de Dieu et l'Épître aux Hébreux nous rappelle qu'ils ont comme fonction de protéger ceux qui doivent hériter du salut. Il y a toutes sortes de théories si on a chacun un ou pas, ça, je ne sais pas. Là. Quand vous allez mourir, si vous êtes capable de parler encore, vous nous le direz. Vous en avez-tu un, vous n'avez pas. Là, donc, le danger, c'est du mysticisme. Et inévitablement, qu'est-ce qui accompagne le mysticisme quand c'est pas assez suffisant de chanter, puis d'attendre, puis de, tu sais, essayer de faire de la ventilation, hyperventilation? Eh bien, c'est l'ascétisme. Faites attention de confondre la raison du vrai jeûne. Un jeûne, se priver de nourriture, ainsi de suite, c'est bien, c'est dans les Écritures, Ésaïe 58. Mais il y a une différence entre un jeûne qui est un temps où j'humilie mon âme pour dire au Seigneur, gars, je t'exprime ma détresse, mais je ne veux pas finalement me laisser avoir dans mon incrédulité que ça peut produire. Mais il y a des gens qui pensent qu'en jeûnant, ils ajoutent comme du mérite devant Dieu. Faites attention, c'est très subtil de tomber dans le principe du mérite. C'est aussi vrai pour les œuvres dans lesquelles on entre. T'sais, pourquoi vous voulez servir Dieu? N'ayez pas peur de demander au Seigneur. C'est quoi ma motivation de vouloir servir, de vouloir, je ne sais pas moi, devenir un ancien, un diacre, un prédicateur, ainsi de suite? Tiens, c'est quoi ma motivation? Ce n'est pas l'amour qui me prince. En réalité, tu es en train d'essayer d'avoir un statut en pensant qu'ayant ce statut, tu vas avoir plus de privilèges qu'un autre devant Dieu. C'est totalement contraire aux Écritures encore. Donc, il va essayer de les mettre en garde contre les pièges qui les attend au chapitre 2. Et chapitre 3, encore une fois, sur la toute suffisance du Sauveur et du Seigneur Jésus-Christ, qui est la source de la vie du croyant. C'est ce qui peut mettre les croyants à l'abri des périls auxquels ils sont exposés. On va être exposé à toutes sortes d'épreuves, à toutes sortes d'injustices, à toutes sortes de choses étranges dans cette vie. Il nous a avertis. Mais où je vais trouver le secours? Tu sais, il y a un psaume qui dit « Je lève les yeux vers les montagnes ». Et trop souvent, quand on le chante, il faut faire attention, parce que regardez comment ça sonne. « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Ce n'est pas d'où le secours va venir, il ne viendra pas des montagnes. Il dit, regarde vers les montagnes, puis les montagnes, c'est souvent une figuration des puissances mondiales de l'époque, les règnes, les puissants. Je tourne mes yeux vers les puissants. Tu sais, par exemple, s'ils avaient une détresse, notre gouvernement, en faisant de la répartition de richesses, il nous a appris finalement à avoir une mentalité qui, inévitablement, dépend du gouvernement, pas vrai? Hein? Si jamais vous perdez votre travail, on a un système qui fait un filet que normalement, vous allez avoir de l'assurance chômage, pas vrai? Même chose sur toutes sortes de besoins. On est malade, on peut aller à l'hôpital. On a un système, finalement, qui, sur l'ensemble de la population, fait que du plus pauvre au plus riche, tout le monde peut aller à l'hôpital. Et c'est des bonnes choses. Mais à toute bonne chose, il faut faire attention. À toute forme de prospérité, il y a un plus, mais il y a toujours aussi, si vous êtes conscient, ça ne sera pas négatif. Mais si vous n'êtes pas conscient, quel est le danger, d'après vous, d'avoir un gouvernement qui s'occupe vraiment bien de nous? On prend de moins en moins nos responsabilités. Pourquoi, d'après vous, il y a des garderies à grandeur de la province et le Québec, ils ont parti? Pourquoi, finalement, on a tant de services offerts aux familles? C'est que, finalement, on n'est plus des familles. Alors, le gouvernement va s'occuper d'élever vos enfants. Il prend en charge vos enfants quasiment depuis le berceau. Deuxièmement, il va prendre en charge leur éducation parce que nous ne les éduquons plus. Mais on est devenu dépendant du gouvernement. Et à un moment donné, s'ils veulent enseigner des choses qui sont contraires à vos valeurs, vous n'avez plus le droit, en tant que parent, de dire « je ne suis pas d'accord avec ça, ce qu'on t'enseigne à l'école ». Il y a des parents qui peuvent avoir des problèmes. Donc, on est dans un monde où l'idolâtrie prend toutes sortes de formes. Et ce n'est pas compliqué de savoir si on est idolâtre. C'est assez facile. Faites le petit test, là, bien simple. Un idole justifie l'action. De la même manière que quand Dieu appelle, il justifie l'action. OK? L'idolâtrie, comme la croyance en Dieu, c'est un idole ou Dieu qui réclame une chose et qui la justifie si vous le faites. Avez-vous des exemples de ce que le Seigneur nous demande de faire et qu'il justifie? OK, aimer son prochain. Prendre soin de la veuve et de l'orphelin, ainsi de suite. T'sais. Il y a plein de choses qui en découlent que le Seigneur nous demande de faire. Oui? Visiter qui? De visiter les gens à la maison, visiter ceux qui sont. Ah, les gens en prison. Ben, ça dépend. Des fois, une maison. En passant, oui, c'est vrai, on peut aller visiter les gens qui sont en prison. Mais le contexte de ce passage-là n'indique pas le ministère, le type de ce qu'on fait en ce moment, ce qui est bien en passant. T'sais, c'était des gens qui étaient emprisonnés à cause de leur foi. Mais c'est bien aussi d'aller visiter tout le monde parce que l'Évangile doit sortir partout. Parce que tout le monde peut être sauvé. Il n'y a pas une catégorie de gens qui OK, vous autres, c'est fini, vous ne pouvez plus être sauvés. Tout le monde peut être sauvé. Donc, déjà d'aller annoncer l'Évangile, quand les gens organisent leur vie pour aller annoncer l'Évangile, pour organiser leur budget pour être capable d'annoncer l'Évangile, structurent leur vie pour pouvoir sortir et annoncer l'Évangile, ça justifie. OK? Maintenant, imaginez que le Seigneur vous met à cœur de partir dans une région lointaine, je ne sais pas moi, cette île. Et puis, regardez bien. Là, vous avez vraiment, tu sais, votre église, vous avez le projet, vous allez chercher la volonté de Dieu, et par l'Église, ce qu'il y a dans votre cœur confirme que le Seigneur vous montre, avec une petite équipe, vous allez partir à cette île. OK? Dans l'Église, on est là, wow, c'est béni, on prie pour vous autres. Vos familles ne sont pas croyantes. Qu'est-ce que vous risquez d'entendre? Cette île, tu fais là! Espèce d'irresponsable, tes enfants, puis tu sais, ils verront pas les grands-parents, puis tu sais, là, c'est la panique générale. Pour le Seigneur, c'est du gaspillage tout le temps. Par contre, vous êtes chez vous, et puis votre compagnie va tripler votre salaire si vous partez à cette île. OK? Puis là, vous annoncez ça à votre famille. Hey, mon boss m'a appelé, puis il dit, écoute, si tu veux partir à cette île, là, on va finalement tripler ton salaire. Là, ton beau-frère, il va dire, « Hey, maudit chanceux! » Pas vrai? Parce que l'idole, mammon, justifie l'action. C'est la même chose avec le sport. C'est pas mal faire du sport. OK, tout est des bonnes choses. OK, c'est toutes des bonnes choses. Mais je veux juste qu'on puisse savoir une bonne chose qui devient hors contexte de ce qu'elle doit être peut devenir une idolâtrie. L'idolâtrie, c'est une chose juste, mais qui devient injuste. Ça vient trop. L'exemple que j'ai souvent donné, parce qu'on avait dans notre église, là, puis on louait ça, c'était beau. Tu sais, Madame Fréchette, là, elle est où, là? Jeune Fréchette. Bon, voilà. Toi, tu te levais de bonne heure en citron le matin, hein? Pas à la piscine. 4h45 pour s'en aller à la piscine. En hiver, ça doit être fret. Et puis, pour faire de l'exercice, puis tu avais sûrement même un régime pour avoir le maximum de ta forme, ainsi de suite. Puis après ça, il fallait que tu ailles à l'école, pas vrai? Le soir, puis ça. Écoute, ça devait être exigeant, ça. Tout le monde admire ça parce qu'elle a frôlé. Hein? Tu t'es quasiment rendu aux Olympiques. Hein? En tout cas, si jamais vous voulez apprendre à nager, allez la voir. Là, donc, tu dis, wow, tu sais. Puis là, tu sais quoi? Même en tant que croyant, on est content de la présenter. Tu dis, hey, elle s'est quasiment trouvée aux Olympiques. Ah, ouais, elle va à votre église. Hein? Oui, oui. Parce que finalement, le système justifie cette action-là. Imaginez finalement, parce que c'est Marc-André qui s'occupe de la semaine de prière, on commence à 5 heures. Il faut se lever à 4h45. Et on va apprendre à nos enfants à prier. On les réveille à 4h45 du matin, on les amène à l'église pour apprendre à prier. Si on veut être populaire en tant qu'église et passer dans les journaux et à la télévision, on a juste à faire ça parce que là, on n'a pas l'idole qui le justifie. Notre société ne possède pas Dieu comme maître de nos actions. Paul va essayer de montrer aux Corinthiens qu'en Jésus-Christ, on a tout. Mais faites attention et soyez conscients des autres idoles dans les sociétés dans lesquelles vous vivez qui justifient des actions qui ne sont pas nécessairement mal. C'est pas mal d'aller à la piscine comme ça. Mais est-ce que vous réalisez à quel point, en tant que croyant, le Seigneur Jésus-Christ n'est peut-être pas vraiment la seule et première source de toute ma vie et de mon action. Ça n'empêche pas pantoute, finalement, d'aller au restaurant, ça n'empêche pas du tout d'avoir une vie normale. Mais est-ce que vous réalisez que pour certaines actions que Dieu nous demanderait, aujourd'hui, on passerait pour des fanatiques? Comme je vous dis, si, je ne sais pas, moi, le Seigneur demande à moi et ma femme de partir dans une autre région lointaine, puis on vend tout. Tu sais, puis on prie ensemble, puis vous discernez que c'est notre appel. En passant, vous allez peut-être me le discerner, mon appel, parce que je vais être présenté avec les anciens, peut-être que vous allez me clairer. Fait que, tu sais. Non, il y en a qui prient pour ça, fait qu'il n'y a pas de problème. Vous me présenter, votez pour moi ou votez pas pour moi. Moi, je vais faire confiance au Seigneur pour le reste. Mais, là, est-ce que vous réalisez que pour une job à 3 fois le salaire, les gens sont prêts à tout quitter? Ils vont aller rester dans le Grand Nord, n'importe où. Mais pour Christ, on passerait pour des irresponsables. Le danger dans nos églises, c'est de vouloir remplacer nos idoles qui nous assurent de la sécurité par Jésus-Christ. Jésus-Christ ne devient pas le remplaçant des idoles. C'est là le piège dans lequel l'Église peut facilement tomber. Vous me suivez? Quand les gens veulent venir au Seigneur pour réussir une meilleure carrière, pour avoir juste une meilleure santé, pour, tu sais, dans le sens, si c'est pour ça que vous êtes venu à l'Église, eh bien, en réalité, vous n'avez pas réalisé, puis le Seigneur peut vous avoir accueilli en passant, il est très généreux, mais la sanctification, ça va être de vous montrer en disant, regarde, je ne suis pas le remplaçant de mammon, mais je peux pourvoir tes besoins en fonction de mon plan. Mais peut-être dans mon plan, c'est que tu sois pauvre. Peut-être dans mon plan, c'est que tu vas me glorifier, oui, Seigneur, avec le succès, oui, m'a donné du succès, m'a donné le succès que j'ai donné à un de mes meilleurs amis. Il s'appelait Simon-Pierre. Fais attention, Simon. Simon-Pierre. Puis, j'ai dit, si tu veux être mon ami comme Simon, j'ai donné à lui une mission très particulière pour me glorifier. Ah oui, oui, j'aimerais tellement te glorifier. Glorifier égale nous autres, succès. Succès du ministère. Oui, j'ai montré comment il va se faire tuer à cause de moi. T'es sûr? Est-ce que vous réalisez que la sanctification, ce que Paul va enseigner aux Colossiens, c'est est-ce que j'ai remplacé une idole qui n'était pas assez satisfaisante avec Jésus-Christ pour demander la même chose que l'idole était supposée me donner. Et ça, ça va être très intéressant de voir comment il va nous diriger dans tout ça. Donc, tout ça pour dire maintenant la base de la nouvelle ville, de la nouvelle vie, puisqu'ils sont ressuscités avec Christ, les instructions données par Paul s'adressent à tous les croyants, 1 à 17. Les croyants devraient être conséquents avec leur nouveau statut. C'est une vie explorée en passant. De la même manière qu'on développe la première, on peut développer vraiment la deuxième. Ils doivent mettre à mort. On est responsable de mettre à mort nous-mêmes, puisqu'on est déjà mort à l'ancienne vie, toutes nos anciennes œuvres, notre ancienne manière de faire. Puis, revêtir l'homme nouveau avec ses nouvelles vertus. Tiens, s'exercer à savoir s'attendre à Dieu, être patient, tout ça va découler, ça va produire une nouvelle vertu. Puis la nouvelle vie a ses nouvelles vertus, doivent aussi se vivre dans les différentes sphères qui composent nos vies, entre époux, épouse, enfant, père, serviteur, maître. Ça, c'est les trois sections qu'il va redévelopper ici. Avez-vous remarqué que celui et celle qui doivent vivre époux, épouse, enfant, parent, serviteur, maître, ce n'est pas l'idole du monde qui va justifier nos relations. Il faut aller revoir le Seigneur, ce que lui dit que nos relations doivent être. Et ça, dans un monde comme aujourd'hui, ça ne sera pas toujours facile. Après ça, il va finir en disant, les dernières demandes d'exhortation avec les salutations, l'urgence à la prière, l'exhortation à une conduite sage et gracieuse, une bonne parole pour Tychique et Onésime, il les envoie pour leur donner de l'information sur leur situation, la situation de Paul, entre autres, pour qu'ils soient rassurés, entre autres, et encouragés. Salutations de la part des membres de son équipe. Vous allez voir, il y a des choses vraiment intéressantes là-dedans. L'échange des lettres. La lettre, au fond, que les Laodicéens ont, c'est ce qu'on appelle dans notre Bible la lettre aux Éphésiens, qui vont amener à Colosse, et ils vont dire aux Colossiens, « Donnez-nous la lettre qu'on va l'amener, nous, à Laodicée après. » Donc, c'est cette lettre-là. Les deux lettres vont se promener. Puis un conseil assez direct pour Archip. Ça, c'est intéressant de voir. Des fois, l'apôtre Paul était assez clair. Et les salutations finales. Et on va arrêter sur ces salutations finales-là. OK. On remet ça au Seigneur. La semaine prochaine, c'est le docteur Angers qui va être là, qui va venir finalement, et on l'a invité de la faculté pour nous amener le message. Donc, ça va vraiment être un temps béni encore avec lui. Voilà. Seigneur, on a tiré les grandes lignes de cette lettre que Paul envoie aux Colossiens qui pourrait facilement nous être adressée, mais nous, mets-la dans notre contexte, afin qu'on puisse, Seigneur, être bien équipé, bien instruit pour saisir pleinement cette nouvelle vie qu'on a en toi, Seigneur Dieu. Parce que là, ici, il y a une coopération. Là, ici, ça compte. Si, Seigneur Dieu, il y a toutes sortes de débats sur jusqu'à où on était responsable de notre propre salut au début, mais Seigneur Dieu, une chose est sûre, après d'être sauvé, tu dis c'est pour la liberté. Tu as été maintenant libéré pour marcher avec moi. C'est ce que tu nous rappelles, c'est cette liberté que tu nous donnes pour marcher avec toi, te suivre, Seigneur Jésus. Enseigne-nous ta volonté. Remplis-nous de la connaissance de ta volonté. Parle-nous de toi, Seigneur Dieu. Parce que trop souvent, on dirait qu'on se cherche dans les Écritures plutôt que de te chercher toi. On cherche trop souvent ce que nous, on a à faire plutôt que de découvrir ce que tu fais pour nous et de découvrir ce trésor afin qu'on y marche, qu'on puisse puiser dedans pour toutes les situations. Tu as dit que tu serais notre berger, tu t'occuperais de nous. Alors, Seigneur Dieu, merci de nous nourrir par ta parole et de nous donner des indications très claires par cette lettre aux Colossiens qu'on va commencer à lire et étudier ensemble. Merci, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Messieurs, la frange. Ouais. Puisque vous avez mis ça, on va prier pour l'offrande. Seigneur, on veut d'abord te remercier de ce que tu nous donnes des moyens. On vit dans un pays, encore une fois, qui sait faire une bonne redistribution des richesses générales du pays. Et tu nous accordes aussi d'être en paix et la part entre nous d'avoir les moyens de vivre. Seigneur, reçois favorablement nos offrandes. Et encore une fois, merci pour la générosité de l'Assemblée, Seigneur, qui nous a permis, même si on n'est pas nombreux, d'entrer dans des œuvres que tu nous as appelées à faire jusqu'aux extrémités du monde. Merci encore une fois pour ce fruit de ton esprit dans la vie des gens ici, leur générosité, Seigneur. Merci énormément, Père. Amen.